Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Nous ouvrons nos Bibles ce matin à Matthieu, chapitre 24, pour examiner encore les signes de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Les signes de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais rien de votre enfance, mais la mienne était remplie de beaucoup de jeux. Si je regarde en arrière, quand j'étais enfant, je ne me vois pas dans une maison, je me vois dehors. Peut-être cela vient-il du fait que j'ai passé une grande partie de ma vie au sud de la Californie, et nous jouions toutes sortes de jeux extérieurs. Et l'un de ces jeux auxquels nous jouions souvent, comme vous, était cache-cache. Quelqu'un était le chercheur, et chacun allait se cacher, et le jeu était vraiment lancé quand le chercheur disait « Je viens ». Et après, prêt ou pas, vous y avez aussi joué. Ce n'était pas un jeu très sophistiqué, mais il marchait ainsi, « Je viens, prêt ou pas ». Eh bien, cette phrase, si on l'applique au Seigneur Jésus-Christ, a de très grandes et profondes implications eschatologiques. Et le texte de Matthieu 24, que nous allons voir aujourd'hui, pourrait très bien s'intituler « Je viens, prêt ou pas ». Parce que c'est exactement ce qu'il enseigne. C'est un texte qui porte sur la soudaineté et l'aspect inattendu de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Nous regarderons les versets 36 à 42 de Matthieu 24, et c'est réellement la première partie du message qui nous amènera jusqu'au verset 51. Mais je voudrais vous rappeler le contexte, afin que vous compreniez où nous sommes dans cet immense évangile, et dans la vie de notre Seigneur. Il n'est qu'à quelques heures d'être trahi et exécuté sur la croix. Il est assis sur le mont des Oliviers, et ses disciples s'approchent de lui avec une question très importante qu'ils ont à l'esprit et qui nous est donnée au verset 3. Ils disent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Ils ont en eux ce sentiment que la fin du monde est très proche, que le royaume du Seigneur Jésus-Christ arrive très bientôt. Ils ont été amenés à le croire parce qu'après tout, il est le roi et il est là. Il a fait des signes et des miracles qui prouvent sa puissance royale. Il a récemment dénoncé les faux chefs religieux d'Israël. Il a purifié le temple de toutes les entreprises impies qui y avaient cours. Il a également annoncé qu'il viendrait bientôt une abominable dévastation dans tout le complexe du temple. Et il a même énoncé la vérité qu'il viendrait dans la gloire. Et toutes ces choses les ont conduits à croire que cela devait arriver dans vraiment très peu de temps. En fait, Luc 19:11 dit qu'il pensait que le royaume de Dieu devrait apparaître immédiatement. Je veux dire qu'il leur semblait qu'il était là, en train de s'annoncer comme roi. Il était là en train de détruire le faux système religieux existant, en vue d'établir le vrai royaume spirituel que les anciens prophètes leur avaient promis. Alors ils étaient remplis d'anticipation. Or, leur question a deux parties. Il y a la partie « Quel sera le signe ?» et la partie « Quand sera-ce ?» Quels sont les signes et quand sera-ce ? Notre Seigneur a commencé par répondre à la question « Quels sont les signes ?» Et nous avons déjà étudié la réponse, des versets 4 à 35. Dans ce passage, il leur donne le signe de sa venue, et il est particulièrement donné au verset 29, où il est dit que la lune ne donne plus sa lumière, le soleil est obscur, les étoiles tombent, les puissances célestes sont ébranlées. Ensuite apparaît le signe, et le signe est le Fils de l'homme dans le ciel. C'est le signe de sa venue sur terre, quand il le voit dans le ciel. Mais il sera précédé de quelques autres signes généraux, décrits du verset 4 jusqu'à 28. Il y aura donc quelques signes généraux. À propos, ces signes généraux sont déclenchés par un événement très particulier, au verset 15, l'abominable dévastation. Quand l'Antichrist installe l'idole de lui-même dans le sein des saints du temple de Jérusalem et oblige le monde entier à l'adorer, cela met en route les douleurs de l'enfantement. Cela déclenche les signes généraux. Donc on commence par l'abominable dévastation, qui est le premier des signes. Ensuite, il y a des signes généraux, décrit dans le reste de ce passage que nous avons vu, qui culmine avec le signe, qui est l'apparition du Fils de l'homme dans le ciel. C'est le signe. Or, tous ces signes, commençant par l'abominable dévastation, jusqu'au signe du Fils de l'homme au ciel, sont des signes très rapides. Ils se passent sur une durée très courte. La Bible nous dit qu'elles durent 3 ans et demi, ou 42 mois, ou 1260 jours. Et c'est pour cela qu'ils sont appelés douleurs de l'enfantement. Ils augmentent rapidement, s'intensifiant, en approchant du royaume. Ce sont des indicateurs généraux, et finissent par un signal spécifique de la venue du Seigneur Jésus. Donc voilà pour la question, quels sont les signes? Puis, en commençant au verset 36, il traite de la question « quand ?» Quand précisément viendra-t-il? Autrement dit, nous voyons bien l'idée générale de ce temps. Mais quand précisément viendra-t-il? Et depuis le verset 36 et jusqu'au verset 31 du chapitre 25, il traite de la question de quand ces choses arriveront-elles? Et c'est là que nous débutons notre étude ce matin. Regardez au verset 36. C'est là la clé du reste de cette section. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Et par cette déclaration, il oriente leur réflexion vers le sujet de « quand », et il leur dit que « quand » est inconnu. Les signes qui précèdent le retour ont été clairement donnés. Ils sont détaillés sans erreur possible, ici en Matthieu 24, comme aussi en Apocalypse, chapitre 6 à 18. On ne peut les manquer. Et la génération qui sera en vie au cours de cette période verra ces signes. Ce sont des signes observables. Ce sont des signes universels. Ils seront des indications immanquables de l'effondrement du monde et de ses systèmes, comme de l'univers. Mais le moment spécifique, c'est-à-dire, remarquez-le au verset 36, le jour et l'heure ne sont pas connus. Ils sont inconnus. Et nous devons nous rappeler qu'il parle d'un jour et d'une heure. Plus loin au verset 42. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Le moment, verset 44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 50, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Verset 13 du chapitre 25, restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Donc il parle du moment spécifique. Maintenant écoutez, le moment du retour sera connu. Il doit être connu. Il doit être connu à cause de toute la chronologie des événements. L'abominable dévastation sera un événement historique. Les formidables conflits mondiaux, les guerres, les bruits de guerre, la nation qui s'élève contre une autre nation, le royaume contre un royaume, les famines, les pestes, les descriptions d'Apocalypse 6 à 18, où il n'y a plus d'eau douce ni d'eau salée. La mer étant changée en sang, et où le cycle des jours est déréglé, et la durée du jour est raccourcie, et il règne davantage d'obscurité, et tous ces événements qu'on peut très bien observer indiqueront que c'est le moment général du retour. Mais le jour et l'heure ne seront pas connus, ce sera soudain, et de façon inattendue. La période de la tribulation indiquée très clairement, et nous savons que la venue du Fils de l'homme, dit le verset 29, suit immédiatement la tribulation. Mais à quel point immédiatement, nous ne le savons pas. Pour l'aborder d'une manière différente, rappelez-vous ceci. Daniel, dans l'Ancien Testament, ainsi que Jean, dans le Nouveau Testament, écrivant dans l'Apocalypse, nous disent, tous deux, que la période de la tribulation, la grande tribulation, est une période de 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Nous trouvons cela dans Daniel 7, 25, 9, 27 et 12, 7. Nous le trouvons dans Apocalypse 11, versets 2 et 3. En Apocalypse chapitre 12, verset 14, et Apocalypse 13, verset 5. Et donc il y a tous ces indicateurs, très clairs, que c'est une période de 3 ans et demi. Elle commence par l'abominable dévastation au verset 15, l'Antichrist installant son adoration personnelle. Donc on peut tout à fait l'observer. Ensuite se passe 3 ans et demi. Aussitôt après, dit le verset 29, vient le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Or la durée de « aussitôt après » nous ne la connaissons pas, et une fois que le signe arrive, nous ne savons pas combien de temps s'écoulera avant qu'il établisse réellement le royaume. Cela laisse une certaine latitude. Il y a une durée. Daniel nous laisse une allusion à ce sujet puisque dans Daniel 12, 11, Daniel parle d'une période d'épreuve et de tribulation de 1290 jours. Donc il ajoute 30 jours à la fin. Ensuite, dans Daniel 12, 12, il parle de 1335 jours. Il en rajoute encore 45, arrivant à un total de 75 jours. Donc Daniel voit une période de 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Et ensuite, il voit une autre période de 75 jours, dont le contenu n'est pas décrit. Donc, nous ne savons pas exactement le jour ni l'heure. La période, oui. La période générale, oui. Mais nous ne savons cela que quand la période a commencé, n'est-ce pas? Nous ne savons pas maintenant, parce que nous ne savons pas sur quelle génération cela va tomber. Cela sera initialisé par l'enlèvement de l'Église. Il n'a pas encore eu lieu. Ensuite, 3 ans et demi de paix quand l'Antéchrist vient au secours, politiquement, du pays d'Israël, au Moyen-Orient, et y apporte la sécurité, et commence à y établir son empire romain restauré en Europe. Et tout va bien. Et puis, c'est au milieu de cette période de 7 ans que tout commence quand il établit le culte de sa personne. Donc, l'enlèvement, l'avènement de l'Antéchrist, les douleurs de l'enfantement, le signe du Fils de l'homme, ces événements ne sont pas encore arrivés. Nous ne savons pas sur quelle génération ils viendront. Ce pourrait être cette génération. L'Église pourrait être enlevée n'importe quand, et la tribulation commencer. Donc, nous ne savons pas de quelle génération il s'agit, mais la génération sur laquelle cela viendra, malgré tous ces signes, et même tout ce qui se passe, ne saura pas encore quel sera le jour exact et l'heure exacte où Christ viendra. C'est un secret. Or, ceci ne parle pas de l'enlèvement, mais de la seconde venue. Ici, nous sommes à la fin de la tribulation, comme le verset 29 le rend évident. Nous avons traversé le temps de la tribulation dans la pensée de Matthieu et l'enseignement de notre Seigneur. Donc, c'est un moment que personne ne connaît. Maintenant, voyez le verset 36, et nous regarderons quelques particularités. C'est un jour et une heure que nous examinons, pas une ère. Nous ne savons pas sur quelle génération cela viendra, mais nous savons ceci, c'est que quelle que soit la génération qui verra son commencement, elle verra aussi sa fin, exact. Ce sont les versets 32 à 35. La génération qui verra le commencement verra la fin, parce que ce sera si rapide, si rapide. 3 ans et demi de tribulation auront passé, puis une sorte de période non déterminée, quelque part par là. Le Seigneur viendra établir son royaume, immédiatement après la tribulation, mais il viendra rapidement. Et personne ne sait le jour ni l'heure, le moment précis. Il commence par dire « Personne ne sait ». Et il fait allusion ici aux humains, à l'humanité et aux hommes naturels. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Cela ne leur est pas révélé. C'est aussi révélé dans Matthieu 25, 13, comme je l'ai lu tout à l'heure. Vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Dieu a choisi de ne pas révéler ce moment précis et de ne donner aucun signe précis de ce moment précis. Et il y a une raison à cela dans sa grande sagesse. Si les hommes savaient à quel moment exact le Seigneur reviendrait, ils seraient impies jusqu'à quelque temps avant ce moment. Ou encore, ceux qui étaient préparés vivraient dans la panique, ou renonceraient, pensant que le temps restant était trop court. La vie deviendrait désespérée, si vous saviez exactement quand le Seigneur reviendrait. On ne pourrait faire aucun projet, ni entretenir de relations, et tout serait dramatiquement affecté par cette date. Alors le Seigneur a choisi de ne pas nous donner cette connaissance, mais que nous vivions chaque moment dans l'attente de sa venue, attendant chaque instant son intervention, de manière qu'il y ait une préparation constante. Si le monde savait le moment précis de la venue du Christ, il se laisserait aller en pensant qu'au tout dernier moment, il prendrait les mesures pour corriger les choses à la dernière minute. Et c'est pour cela que Dieu ne nous a pas précisé la date. Donc personne ne le sait. C'est caché des hommes. Et ensuite il dit, pas même les anges du ciel. Même les anges ne le savent pas. Le monde naturel ne le sait pas, ni le monde surnaturel. Or, les anges sont les plus proches créatures de Dieu. Dans Ésaïe 6, ils tournent autour du trône de Dieu, obéissant à ses ordres. Dans Matthieu 18:10, ils sont continuellement face à face avec Dieu, dans une communion intime avec lui. Ils sont très proches de Dieu. Ils sont autour du trône. Ils communient avec lui régulièrement pour lui obéir. De plus, si vous vous souvenez, dans Matthieu 13, il nous est dit que les anges sont les agents du jugement et du rassemblement des justes et des impies lors de la seconde venue, lorsque Dieu intervient pour juger le monde et rassembler les hommes dans ce jugement. Il envoie ses anges, qui sont les moissonneurs, vous vous souvenez, pour recueillir le blé et les mauvaises herbes. Donc les anges sont très impliqués dans l'activité du jugement. Au verset 31 du chapitre que nous étudions actuellement, les anges sont ceux qui sont envoyés pour rassembler aussi les élus. Donc, bien que les anges soient les intimes de Dieu, et bien qu'ils soient face à face avec Dieu dans un sens spirituel, faisant sa volonté, et bien qu'ils soient les agents du jugement et du rassemblement des croyants et des impies au moment de la venue du Christ, malgré tout cela, ils ne connaissent pas le moment exact. Dieu a choisi de ne pas le leur révéler. Et il a ses raisons. Je ne suis pas dans le secret de ses raisons, parce que l'Écriture ne les révèle pas. Mais ils ne savent pas non plus. Or, les meilleurs manuscrits de Matthieu nous indiquent que devrait être inclus dans le texte ni le Fils, ni le Fils. Dans Marc 13, 32, qui est le passage parallèle, il est nettement inclus par Marc. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît, et il serait mieux de l'inclure ici dans Matthieu. Je crois que certaines traductions, NIV, NAS en anglais, ont raison de l'inclure. Jésus dit, « Même le Fils de l'homme ne sait pas. Même moi je ne sais pas. » Et bien entendu, ceci a provoqué toutes sortes de discussions intéressantes. Comment se fait-il que Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est omniscient, ce qui veut dire qu'il sait tout, puisse ne pas savoir quelque chose, ou qu'il y ait quelque chose qu'il ne sache pas? Eh bien, je pense que cela s'explique assez facilement si nous comprenons le sens de son incarnation. Jésus-Christ est pleinement Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, comme les théologiens disaient, vrai Dieu de vrai Dieu. Il est Dieu pleinement et totalement, parce qu'on ne peut être Dieu partiellement. Il est entièrement Dieu. Mais lorsqu'il est devenu homme, il a volontairement restreint l'usage de sa divinité, de ses attributs divins. Ce n'est pas qu'il les ait mis de côté. Ce n'est pas qu'il ait mis sa divinité de côté, mais c'est qu'il a restreint l'usage de ces choses. Il les avait comme instruments, mais il a choisi de ne pas les prendre pour les utiliser. Donc il a vécu, en quelque sorte, sans utiliser son omniscience, sauf quand le Père lui disait de le faire. Nous savons qu'il était omniscient dans certaines circonstances. Dans Jean 2, il est dit qu'il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Il y a beaucoup d'indications de sa grande connaissance, de sa connaissance divine, mais il restreignait l'usage de son omniscience à ce que le Père voulait qu'il sache. C'est l'objectif de l'incarnation. Quand la Bible dit qu'il devint un fils, il a pris sur lui la forme d'un serviteur, ce qui signifie qu'il se soumettait à ce que le Père voulait qu'il fasse, ce que le Père voulait qu'il dise, et ce que le Père voulait qu'il sache. C'est pourquoi, dans Jean 15, 15, vous avez un verset très, très important pour comprendre Christ. Il est dit ceci. Jésus, parlant aux disciples, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami, écoutez bien, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. »
Autrement dit, la connaissance de Jésus dans son incarnation était limitée à ce que le Père lui avait révélé. Et le Père lui a révélé des choses par l'Écriture, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Quand il étudiait l'Écriture, par l'expérience quand il marchait dans le monde et voyait agir la puissance de Dieu et par révélation directe. Mais Jésus limitait sa connaissance à ce que le Père choisissait de lui révéler. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a choisi de le faire pour jouer le rôle d'un serviteur pour accomplir la rédemption de l'humanité. C'est un concept très important. Donc, lorsqu'il est dit qu'il s'est humilié, qu'il a pris la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, ce qui suit, cela veut dire qu'il a limité l'usage de ses attributs. Et si vous avez étudié, par exemple, les passages qui traitent le début de sa vie, vous vous souviendrez qu'il est dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait en sagesse. Vous direz, comment pouvait-il grandir en sagesse s'il était Dieu ? Parce qu'il grandissait en sagesse dans le sens qu'il limitait sa connaissance à ce que le Père lui révélait. Donc, tant qu'il a vécu, le Père lui révélait constamment des choses. Donc, il croissait en sagesse. Vous comprenez cela? C'était, si vous voulez, une humiliation imposée à la nature divine pour accomplir votre rédemption et la mienne. Et alors, en regardant à lui ici, dans un sens, il grandit encore en sagesse. Il augmente encore la connaissance parce que le Père ne lui a pas encore révélé ceci. Maintenant, c'est mon impression personnelle qu'après la résurrection, ceci lui a été révélé. Lorsqu'il est sorti du tombeau dans la gloire de sa vie de résurrection, il est dit dans Matthieu 28, 18 qu'il a dit à ses disciples « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et je pense qu'il est dit par là que rien ne manque. J'ai l'autorité sur toute chose. » Puis dans Actes 1:7, il dit ceci. « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Et il ne s'inclut plus. Il dit « Ce n'est pas à vous de connaître. » Donc il se peut bien qu'après la résurrection, sa connaissance ait été complète. C'est comme si le Père lui avait seulement révélé le prochain grand événement et qu'il ne lui ait révélé le moment précis de sa seconde venue qu'après qu'il soit déjà sorti de la tombe, ayant accompli la résurrection. Et ensuite le Père lui a révélé l'événement suivant de son œuvre merveilleuse. Merveilleuse. Donc, il dit que les gens ne savent pas, que les anges ne savent pas, et que pour le moment, lui non plus ne sait pas, pour montrer la soudaineté formidable, l'inattendu et le mystère du moment de la venue de Jésus-Christ. Et ensuite, à la fin du verset 36, « Mon Père seul les connaît. » Et souvenez-vous, il l'appelait toujours Père, sauf à une occasion, quand il a dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce qu'il mourait sur la croix, séparé de Dieu. Toutes les autres fois où il parlait à Dieu, il s'adressait à lui comme Père. C'était son terme préféré pour Dieu. Et seul est accentué. Il est le seul à savoir. Et bien entendu, c'est pour cela que je crois que lorsque Jésus est entré dans sa gloire, sinon immédiatement après sa résurrection, certainement après son ascension, il est alors revenu dans la plénitude de ce qu'il avait avant l'incarnation. Et à ce moment même, il sait tout à fait quand le moment de la seconde venue aura lieu. Mais au centre de cette incarnation, cela a été laissé pour faire place à la connaissance de ce que le Père voulait lui dire, et rien de plus. Ainsi, nous ne savons pas. Ce moment, nous ne le connaissons pas. Et il y a une raison à cela. Parce que le Seigneur veut que chaque génération vive dans l'attente. Que chaque génération vive. Êtes-vous prêts pour ce mot? En étant préparés. Nous ne savons pas sur quelle génération cela va tomber. Mais quand cela viendra, ce sera comme une catastrophe, et ce sera sous un feu rapide. Et nous ne savons pas dans quelle génération ce sera, et même la génération sur laquelle cela arrivera ne connaîtra pas le moment exact. Donc les chrétiens, depuis le Nouveau Testament, ont toujours vécu dans l'impatience de la venue du Christ. Les Corinthiens, par exemple, Paul leur écrit en 1 Corinthiens 1, en disant « Ainsi, il ne vous manque aucun bien. » À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Il y a à Corinthe une église de la première génération qui attend la venue du Seigneur Jésus-Christ. Ils attendent comme s'ils devaient venir dans leur propre génération. Ensuite, dans Hébreux, « N'abandonnons pas notre assemblée, dit l'auteur, au chapitre 10, verset 25. Faites cela, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, comme si ceux qui recevaient cette lettre aux Hébreux allaient vivre pour voir s'approcher le jour. » Et encore dans Philippiens, l'apôtre Paul écrit au chapitre 3, verset 20, « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Paul dit que nous regardons là-haut pour voir s'il n'arrive pas incessamment. Et dans Jacques, vous trouvez la même chose. Dans Jacques, chapitre 5, verset 8, « Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. » Et dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 7, la fin de toute chose est proche. Et 1 Jean 2,18, c'est la dernière heure. Et Apocalypse 22,20, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, dit Jean. Donc, vous voyez, même les écrivains de l'époque du Nouveau Testament attendaient la seconde venue de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas pleinement le moment où elle aurait lieu. Ils vivaient dans l'expectative, et chaque génération devrait le faire, parce que chaque génération devrait vivre en étant prête. Vous comprenez où je vais en venir, c'est cela. Si nous nous y attendons à tout moment, nous serons prêts pour lui à tout moment. Et Dieu seul sait quand ce sera. Dieu seul sait le moment précis où il aura lieu. Alors vous poserez la question, bon, pourquoi attend-il? Je pense que je peux vous donner une réponse. La première partie de cette réponse vient d'Apocalypse 14, verset 15. Je crois qu'il attend pour cette raison. Un autre ange sortit du temple. Apocalypse 14, 15, et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. C'est une image qui nous est montrée, au verset 14, du Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, assis dans le ciel. Et l'ange vient en criant d'une voix forte. Lance ta faucille, et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre fut moissonnée. L'imagerie ici est très, très importante. vous plantez, et vous prenez soin de la plantation, et le grain croît jusqu'à son mûrissement complet, et après vous moissonnez. Et l'image ici est celle-ci. Le Seigneur a attendu le mûrissement du mal, il a attendu le mûrissement du péché, et le Seigneur ne va pas agir en jugement sur ce monde avant que la moisson soit mûre, avant que le péché ait suivi son cours, jusqu'à ce qu'il se soit répandu, si vous voulez, jusqu'à ce que toute l'impiété du mystère de l'iniquité, c'est-à-dire le mal du mal, pas encore révélé. C'est difficile d'imaginer qu'il puisse y avoir du mal, pas encore révélé, n'est-ce pas? C'est difficile d'imaginer cela dans notre monde. Mais le mal non révélé dans ce temps futur, quand le péché, à libre cours, est répandu partout, quand il atteindra son point culminant, alors la faucille sera lancée et la moisson sera faite. Donc la raison pour laquelle Dieu a attendu ces 2000 ans, tout d'abord, c'est parce qu'il permet au péché de courir librement dans sa méchanceté, d'agir, de mûrir jusqu'au point où il sera complètement, finalement et pour toujours moissonné. Il y a une autre raison, et cette raison nous est indiquée dans Romains, chapitre 11, verset 25. Il est dit, « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, cette vérité non révélée, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. » L'ensemble des non-juifs parle du rassemblement de l'Église de cet âge. Je crois qu'une autre raison pour que le Seigneur attende est pour le rassemblement de l'Église. Je crois qu'il attend de rassembler tous les saints dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Il attend de réunir les non-juifs qui lui donneront gloire pour toujours et à jamais, dans toute l'éternité, où ils le loueront, lui donneront honneur et adoration, et le serviront. Il les rassemble pour être les occupants de son ciel éternel, pour le louer et glorifier son nom. Et également, après que l'ensemble des non-juifs soit entré, dit le verset 26, et ainsi tout Israël sera sauvé. Il faut qu'il y ait aussi à l'avenir le salut d'Israël, afin que juifs et non-juifs puissent dans toute l'éternité louer Dieu ensemble. Donc, il y a eu un temps depuis la première venue. Nous attendons tous ces 2000 ans, et il n'est pas encore venu. Et la raison est double. 1. Pour que le péché puisse mûrir. 2. Pour que les rachetés qu'il a prévus pour sa gloire éternelle puissent être amenés à cette gloire éternelle. Donc c'est pour le péché et pour le salut. Maintenant, regardez à 2 Pierre, chapitre 3, un instant. Et ceci également se rapporte au même sujet. Dans 2 Pierre, chapitre 3, nous disons « Oh là là, que cela prend du temps! Cela dure et dure encore! Quand cela va-t-il finir ?» Mais ce que nous oublions est au verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier. C'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Autrement dit, Dieu n'utilise pas d'horloge, et ce qui nous semble une longue période, parce que nous sommes des créatures du temps, n'est pas long du tout pour un Dieu éternel sans temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Il attend jusqu'à ce que tous les non-juifs et les juifs prévus depuis l'éternité passée viennent à la rédemption. Ensuite viendra le retour. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas agir, c'est qu'il rassemble ses rachetés. Ce n'est pas qu'il se soit passé beaucoup de temps, parce que pour Dieu, aucun temps n'est passé du tout. Alors, que les moqueurs du verset 3 sont stupides, n'est-ce pas? Des moqueurs qui viendront dans les derniers temps, qui vivront en suivant leurs propres désirs, dit le verset 4, et diront « Où est la promesse de son retour ? Où est la promesse de son retour ? Quoi ? Il ne viendra pas. Nous avons attendu, encore et encore. Et depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création, disent-ils. Nous sommes des uniformistes, des uniformitaires. Nous croyons la théorie de l'uniformité. » Tout continue de la même manière, rien ne change. Mais pour dire cela, dit le verset 5, ils doivent délibérément ignorer que c'est par la parole de Dieu que les cieux ont existé autrefois, ainsi qu'une terre tirée des eaux, et au milieu d'elle, le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Ils doivent délibérément ignorer le déluge. Écoutez, le monde n'est pas toujours resté dans le même état. Dieu a balayé le monde entier. À part 8 personnes, n'est-ce pas, dans le déluge. Tout n'est pas resté dans le même état. Et il y a la preuve dans le monde entier, sur tout le globe terrestre, d'un déluge universel mondial, où Dieu a noyé toute la civilisation humaine, dans Genèse, chapitre 6, Dieu a regardé l'homme dans son entier et dit qu'il n'a vu que méchanceté et que du mal, et il décida de tous les noyer, excepté les 8 âmes justes sur la face de la terre, Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs femmes. Et si vous alliez dire, « Eh bien, tout a toujours continué comme c'était, vous avez oublié que ceci est arrivé, tout n'est pas toujours resté identique. » La raison pour laquelle il y a un temps ici, c'est parce que, au verset 8 de 2 Pierre 3, Dieu ne voit même pas le temps. Et deuxièmement, parce qu'il attend pour rassembler tous ses élus. Mais le verset 10 dit que le jour du Seigneur viendra, n'est-ce pas? Il viendra. Et il viendra comme le voleur dans la nuit. Inattendu et soudain, précise-t-il, quand on ne l'attend pas, quand on n'y pense pas, et quand on n'en a pas conscience. Ensuite, il parle de la disparition du ciel et de la terre et tout cela. Et je trouve intéressant que Pierre embrasse l'ensemble du grand tableau de la seconde venue, sans faire de distinction. Et je veux dire par là qu'au moment où le Seigneur vient à son retour pour commencer son règne de 1000 ans, les cieux sont dramatiquement changés, et la terre est aussi changée, nous le savons. Les étoiles tombent, la lune ne donne plus sa lumière, le soleil s'éteint, toute l'eau douce est salée, tous les systèmes de la terre sont changés, et tout est dans le chaos. Les puissances célestes sont ébranlées. Nous croyons que tout cela aura lieu dans la période de 1000 ans, alors qu'il recrée, en quelque sorte, un nouveau ciel et une nouvelle terre pour le royaume, pour le millénium. Il y aura dans un sens une nouvelle sorte de ciel et une nouvelle terre à la seconde venue. Ensuite, à la fin du royaume, dans Apocalypse 21, Jean parle du nouveau ciel et de la nouvelle terre, et je crois qu'il nous faut voir. Alors que ce processus de recréation est en 2 phases, si vous voulez, lorsque Jésus vient, il y aura une modification de l'univers, et à la fin du royaume, il y aura une nouvelle création de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre qui seront éternelles. Pendant le royaume, il y aura une terre restaurée comme nous la connaissons, et des cieux restaurés comme nous les connaissons. Dans la situation finale éternelle, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre, quelque chose que nous n'avons jamais connu. Donc, dans un sens, Pierre balaye pour nous tout le chemin jusqu'à l'entière dissolution de toutes choses à la fin du royaume, et nous dit en fait que lorsque Jésus viendra, il y aura une désintégration de tout ce que nous connaissons dans l'espace et sur la terre, et viendront un nouveau ciel et une nouvelle terre, dit-il au verset 13. Donc, dans ce sens, il nous emmène au changement total qui arrive à la fin du royaume. Mais ce changement commence avant les 1000 ans, comme nous avons un ciel restauré et une terre restaurée. Et nous le savons parce que l'effondrement est très clair dans la tribulation, et quelque chose de nouveau en sort, puis finalement quelque chose encore plus glorieux dans l'état éternel. C'est donc intéressant d'y réfléchir. Dieu a créé un monde intact, puis le monde fut déchu. Ensuite, le monde est restauré comme le Seigneur veut qu'il soit pour le royaume de Jésus-Christ. Ensuite, ultimement, il est créé à nouveau pour le nouveau ciel et la nouvelle terre, dans l'état éternel. Ainsi, on peut voir l'histoire de la planète et de l'univers, dans un sens, dans cette grande littérature prophétique. Or, le jour viendra, dit Pierre, il viendra. Quand? Personne ne le sait. Maintenant, revenons au verset 36. Personne ne connaît exactement le jour ni l'heure. Nous savons quelle génération, oui. Nous savons laquelle. Parce que c'est la génération qui verra les douleurs. Versets 32 à 35, c'est celle-là. Mais le jour et l'heure, personne ne les connaît, personne. Donc, quelle devrait être l'attitude de chaque génération? Quelle devrait être l'attitude de chaque personne, puisque nous ne connaissons pas le moment exact? Plus spécialement, quelle devrait être l'attitude de ceux qui voient les douleurs de l'enfantement? Quelle devrait être l'attitude de cette génération vivante à ce moment-là? La génération qui voit l'abominable dévastation. La génération qui voit la montée de l'Antichrist, la génération qui voit les changements sur la face de la terre, qui voit tous les désastres, naturels, spirituels et surnaturels, et autres, quelle devrait être son attitude? Premièrement, la vigilance. Deuxièmement, la préparation. Et troisièmement, la fidélité. Et nous ne verrons que la première, la vigilance. Verset 37. Le fait que le retour soit inattendu appelle à la vigilance. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. Or, ici encore, nous trouvons ce que Pierre fait dans sa lettre en liant le retour du Seigneur Jésus-Christ
et son jugement. Son jugement cataclysmique et catastrophique avec le temps du déluge. C'est la seule illustration de l'histoire humaine qui peut s'en rapprocher, parce qu'il a totalement détruit la face de la terre. Donc nous découvrirons que l'attitude qui a dominé au temps de Noé sera la même attitude qui prévaudra au moment du retour. Qu'est-ce qu'il veut dire par « ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme » ? Ce sera comme au temps de Noé, juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, non seulement les gens ne connaissent pas le jour et l'heure où viendra le Seigneur, mais la plupart ne s'en soucieront pas du tout. Même avec tous les signes et tous les miracles, et tout ce qui se passera, ils seront indifférents. Ils n'y penseront même pas. Ils ne considéreront même pas que c'est une possibilité. C'est difficile à imaginer. Je veux dire que c'est vraiment dur à imaginer. Ils se moqueront et en riront comme dans 2 Pierre, chapitre 3. Et ils sortiront leurs petites règles à calculer, et sortiront leurs petits tableaux, et fouilleront dans leurs ordinateurs, et analyseront l'univers pour essayer d'expliquer scientifiquement pourquoi tout va de travers, pourquoi il y a des séismes, et pourquoi il y a toutes sortes de mouvements dans le ciel, et pourquoi les marées sont perturbées, et pourquoi la lune devient-elle sombre, et pourquoi le soleil n'éclaire-t-il plus correctement, et pourquoi la journée a-t-elle rétréci, et pourquoi il y a du sang dans les mers, et que l'eau est amère, et pourquoi les gens s'égorgent-ils entre eux, et pourquoi tous ces terribles massacres partout dans le monde. Ils chercheront à savoir pourquoi tout cela, sociologiquement, scientifiquement, rationnellement, mais ils ne chercheront pas dans la vérité de la parole de Dieu. Vous direz que c'est presque impossible à croire, mais c'est tout à fait correct. Je veux dire, pourquoi nous attendre à ce qu'il soit différent de quand le Seigneur Jésus-Christ était ici la première fois? Ou bien, c'est vrai, ils pouvaient le voir, ils pouvaient l'entendre, ils l'ont observé, autant la maladie du pays de Palestine. Ils l'ont vu ressusciter des morts, et ils ne sont pas arrivés à en tirer les bonnes conclusions. En fait, les chefs religieux ont décidé qu'il venait du diable. Donc l'esprit de l'homme est aveuglé, voyez-vous. Et le monde de notre Seigneur était si égoïste, si égocentrique, si religieux, si hypocrite, si matérialiste, si pécheur, si impie, si dénué de vie spirituelle et de discernement, qu'ils ne pouvaient même pas voir le Sauveur lorsqu'il marchait parmi eux. Pourquoi devrions-nous nous attendre à ce que le monde du futur soit si différent en voyant les signes de son retour? Dans Matthieu, chapitre 16, vous rappelez-vous les trois premiers versets. Quelle terrible accusation! Les pharisiens et les sadducéens vinrent à Jésus pour l'éprouver, voulant qu'il leur montre un signe du ciel. Je veux dire, c'est ridicule de demander une telle chose. Donne-nous un signe venant du ciel. Ils avaient des milliers et des milliers de signes de ce genre de sa part. Et il leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Vous êtes censés être des chefs religieux, vous êtes bons pour prévoir le temps, mais vous n'avez aucune idée quant à ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez, ils fermaient leur esprit à la vérité de Dieu, tout comme l'histoire d'Israël a été une histoire d'ignorance de la parole de Dieu. Ils ignoraient les prophètes de Dieu, ils ignoraient les miracles de ses prophètes, ils ignoraient les paroles de ses prophètes, ils tuaient les prophètes, ils ont tué le Fils de Dieu. Et quand il s'agit des signes de sa venue et de la grande tribulation, le monde sera tout aussi obscurantiste, tout aussi dépourvu de perception, tout aussi aveugle qu'il a toujours été sur ce qui se passe. Et on fera ce qu'on a toujours fait, on avancera une explication rationnelle. Le fait qu'on sera aussi mauvais à ce moment-là que n'importe quand dans l'histoire du monde. La Bible nous dit que, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au cours de la tribulation, celui qui le retient aura disparu. Le Saint-Esprit est dans le monde actuellement, retenant le mal, le jugulant. On dirait qu'il en lâche un peu tout le temps, mais finalement, quand la tribulation viendra, il lâche tout, et le mal a libre cours. Ensuite, Apocalypse 9 dit que l'enfer crache tous les démons provisoirement liés, et ils s'éparpillent sur la terre. Donc la population de démons augmente aussitôt drastiquement. Ensuite, il nous est dit que Michel et Satan combattent, et Satan est expulsé du ciel vers la terre, Apocalypse 12. Donc maintenant, vous avez Satan sur la terre, et tous les démons sont sortis de l'enfer comme des grenouilles dégoûtantes et impures, comme qui dirait, sortant de l'enfer. et tous les démons qui sont déjà là sans restriction, et le monde ne fait que se déchaîner dans le péché. Et ce genre de monde débauché, répugnant, au-delà de toute imagination, c'est pourquoi il est appelé mystère de l'iniquité. C'est l'iniquité, à un niveau qui n'a pas encore été révélé, ni connu, ni expérimenté dans 2 Thessaloniciens 2. Ce monde sera si vil et si mauvais, si méchant, si occupé à son péché, par le sexe, les drogues, l'alcool, si englobé dans son souci de préserver sa Babylone matérialiste d'économie politique, si mauvais, si rempli de haine mutuelle, de haine de Dieu et de la vérité, que lorsque tout ceci arrive, il y aura toutes sortes d'explications, sauf le désir de comprendre la vérité. On ne voudra pas comprendre la vérité, et Jésus dit que ce sera comme au jour de Noé. Vous voyez, au jour de Noé, les gens ignoraient la vérité, n'est-ce pas? Savez-vous combien de temps Noé a prêché? 2 Pierre 2:5 appelle Noé « prédicateur de la justice ». Pensez-vous qu'il a simplement bâti un grand coffre? C'est le mot pour l'arche, le même mot pour un coffre de bois. Il a construit un grand coffre au milieu du désert, en disant à la population qu'il allait y avoir un déluge. Et ils ont ri, parce qu'il n'avait jamais plu. Il n'y avait rien ressemblant à de la pluie. Et il n'y avait pas d'eau à cet endroit. Et savez-vous pendant combien de temps il a bâti ce bateau? 120 ans. Et ils ont ri, et l'ont raillé, se sont moqués de lui, et l'ont tourné en ridicule. Mais 2 Pierre 2:5 dit qu'il était un prédicateur de la justice. Il n'était pas qu'un bâtisseur de bateaux, c'était un prédicateur. Avant d'être constructeur de bateaux, il était prédicateur. Et pendant 120 ans, en bâtissant le bateau, on a dû lui demander 1 million de fois « Pourquoi construis-tu ce bateau ?» Pas vrai? Pourquoi construis-tu ce bateau? Et voici ce qui a déclenché le serment. C'est parce que Dieu va juger la méchanceté de ce monde, et seuls ceux qui mettent leur foi en lui vont en réchapper. Et je construis le bateau comme moyen de sauvetage. Voudriez-vous monter à bord? Et ils ont éclaté de rire et se sont moqués. Pendant 120 ans, ils ont poursuivi leur vie comme d'habitude, alors qu'ils prêchaient le jugement. Prêcher le jugement encore et toujours, et le leur démontrer en construisant un gigantesque coffre de bois au milieu d'eux, de manière que tous puissent le voir. Et ils ne l'ont pas voulu. Et je suis sûr que le jour où une première goutte de pluie a frappé le nez de quelqu'un, ils ont dû penser qu'un dinosaure avait éternué derrière une colline, quelque chose comme ça. Ils ne voulaient toujours pas croire. Ils ne voulaient pas le croire. Ils auraient pu avancer toutes sortes d'excuses pour ne pas le croire. Alors, comment était-ce au jour de Noé? Verset 38. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Incroyable! Pendant 120 ans, cet homme a prêché, 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 prêché. Et ils ne crurent rien jusqu'à ce qu'ils soient tous emportés dans le déluge. Et il y aura des signes, et des signes, et des signes, et des signes pendant 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Il y aura des signes clairs dans le monde entier que tout va partir en morceaux. Et il y aura des prédicateurs de justice, les 144 000 et les 2 témoins d'Apocalypse 11, l'armée des rachetés des non-juifs du monde entier d'Apocalypse 7. Et ils seront renforcés par l'évangile prêché par l'ange qui prêche l'évangile éternel sur toute la planète. Ils entendront le message, mais ils ne le croiront pas. Ils ne le croiront pas jusqu'à ce qu'ils soient littéralement emportés dans l'holocauste ultime du jugement de la seconde venue. Ils avanceront toutes sortes de raisons de se moquer, de railler et de rire et de ridiculiser. Et si les hommes étaient aussi méchants au jour de Noé, ils seront plus méchants encore au jour de la venue du Fils de l'homme. Maintenant, regardez ce qui est dit. Ils mangeaient et buvaient, se mariaient, et mariaient leurs enfants. Ce ne sont pas des péchés. Manger et boire ne sont pas des péchés. Et se marier et marier ses enfants ne sont pas des péchés. Se marier, ce sont les gens qui se marient. Et marier ses enfants parle des familles, qui donnent leurs jeunes en mariage. Cela signifie que la vie s'écoulait comme d'ordinaire, n'est-ce pas? Cela veut donc dire qu'ils continuaient à vivre dans leur routine. Ils vivaient comme si rien n'allait changer. Ils passaient complètement à côté de ce qui arrivait. Ils ne voyaient pas les implications. Ils continuaient, au jour de Noé, de manger, de boire, de se marier et de donner leurs enfants en mariage,
comme si cela n'allait jamais finir. Donc manger et boire, c'est la routine personnelle. Se marier et donner en mariage, c'est la routine familiale, une activité sociale. Il ne faisait que poursuivre les cycles des activités normales, personnelles, familiales et sociales comme d'habitude. Ils maintenaient la routine. Ils essayaient de s'adapter un petit peu à ce personnage, Noé, et à ce qu'il disait. Mais la vie continuait comme d'ordinaire. Et c'est exactement ce qui se passera lors de la tribulation. Je pense que nous, comme chrétiens, nous vivons dans l'idée que lorsque tout ceci commencera, il y aura dans tout le monde des gens qui diront comme un grand « Oh, ça y est, c'est le moment !» Écoutez, il y aura un reste racheté. Il y aura un reste racheté massif, innombrable, selon Apocalypse 7. Il y aura le réveil et la foi de la nation d'Israël. Mais il y aura également un rejet mondial de tout ce qui a quelque chose à voir avec ou ce qui touche à Dieu. Le sécularisme en étant le meilleur exemple. Et dans les jours de Noé, précédant le déluge, les gens poursuivaient leur routine jusqu'au jour où Noé entra dans le kibotos, l'arche, le grand coffre de bois. Et vous savez ce qui est dit dans Genèse 7, 11 à 16, que lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, la porte a été fermée. Et probablement que cela n'a pas pris bien longtemps, avant que l'eau s'étant mise à monter, certains viennent frapper, mais il était trop tard. Trop tard. Ils ne se sont doutés de rien. Verset 39. Dinosco. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le cataclousmos vienne. Le cataclysme. Cela signifie laver, à grande eau, jusqu'à ce que le grand lavage survienne, et les emporte tous. Vers la damnation, vers la mort, vers le jugement, vers une éternité sans Dieu. Il arrivera de même au retour du Fils de l'homme, est-il dit à la fin du verset 37. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme, est-il dit à la fin du verset 39. C'est dit deux fois. Ce sera tout à fait la même chose. La vie habituelle, continuer avec la routine, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Trop tard. La dévastation est instantanée. Ainsi donc, cette génération sera comme celle de Noé. Avertie, avertie, encore, répétitivement. Cette génération-là fut avertie pendant 120 ans. On vivait plus longtemps alors. La génération future sera avertie pendant 3 ans et demi. Le fait est qu'elle est avertie déjà maintenant. Elle a été avertie dès que le Nouveau Testament a été écrit. Quelle que soit la génération qui sera en vie quand cela arrive, ce pourrait être celle-ci. Elle n'en sera pas consciente jusqu'à ce qu'elle soit emportée dans le jugement. Ensuite, il devient très précis dans les versets 40 et 41. Alors, deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Le mot « un » au verset 40 est du genre masculin. Le « un » au verset 41 est du genre féminin. Cela signifie que le verset 40 parle d'un homme sur le terrain, deux hommes sur le terrain, un pris, un laissé. La tâche de l'homme, dans cette partie du monde particulièrement agricole à l'époque, plaçait l'homme dans les champs et les femmes à la meule pour moudre ce qui était moissonné par les hommes. C'était donc la vie courante, et au milieu de la routine de la vie, l'un va être pris. Que veut dire ici pris? J'ai entendu certains dire que c'était l'enlèvement. Vous ne pouvez pas introduire l'enlèvement ici. On parle d'un événement qui a lieu longtemps après. Ici, on parle de pris dans le jugement. Revenez au verset 39. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. C'est basé sur cette image. C'est basé sur cette image du déluge, emportant les hommes dans la mort. Deux seront au champ quand ce dernier déluge de feu dévastateur viendra, et un est pris dans le jugement. Sur deux au moulin, un est pris dans le jugement, et l'autre laissé. L'autre laissé. Pourquoi sont-ils laissés? Ils sont laissés pour aller où? Dans le royaume. Ils deviennent ceux qui peuplent le royaume de 1000 ans. Ce sont les rachetés. Donc, vous avez des gens au travail. Certains sont croyants, et d'autres ne le sont pas. Les non-croyants seront emportés, et les croyants seront préservés. À propos, le processus de séparation est décrit en détail dans le jugement des brebis et des boucs de Matthieu 25, 31 à 46, où Jésus prend les boucs d'un côté et les envoie dans le châtiment éternel, ses brebis de l'autre, et leur donne le royaume. Donc elles sont laissées. Très important. Elles sont laissées pour le royaume. C'est donc ce que nous devons garder à l'esprit. Quand le royaume du millénium arrive et débute, ceux qui ont été laissés pour y rentrer seront les croyants qui n'auront pas été emportés dans le jugement de tous les impies. Donc le royaume sur terre, le royaume millénial, sera peuplé de ces croyants qui ont vécu le règne terrifiant de l'Antichrist. Et il ne les a pas détruits. Ils sont encore vivants quand Christ vient. Christ élimine dans un jugement de destruction tous les impies, mais les croyants qui restent encore et qui sont vivants entreront dans son royaume millénial pour le peupler. Donc ce royaume est peuplé d'êtres physiques, de vraies personnes comme nous, qui ont traversé le règne terrifiant de l'Antichrist, qui ont cru en la vérité de l'Évangile, et qui n'ont pas été détruits. Peut-être que certains d'entre eux ont même cru au dernier moment. Vous rappelez-vous ce qui est dit dans Actes chapitre 2, qu'au moment même où le Seigneur vient, tous ces événements sont décrits, cités, de Joël 2, et il est dit qu'à ce grand moment, où les signes dans les cieux ont lieu, et où le royaume va commencer, alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Je crois que dans ce moment ultime, alors que le roi vient établir son royaume, il y en aura qui feront appel au nom du Seigneur à temps pour être sauvés. À temps. Ils seront préservés avec ceux qui ont cru avant, au cours de la tribulation, et ensemble, ils entreront dans cette période du royaume pour peupler la terre, pour se reproduire, pour avoir des enfants, pour vivre le royaume que Dieu avait promis dans l'Ancien Testament. Donc ils seront laissés. Il y aura ainsi un moment de grande séparation quand il viendra. Or, ceci pour dire quelque chose de très important. Verset 42. Restez donc vigilants puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Quand le Seigneur viendra, les impies seront emportés et les fidèles seront laissés, restant en sécurité pour entrer dans le royaume. Voilà la promesse. Mais nous ne savons pas, et la génération en vie à ce moment-là ne saura pas le moment exact, donc il faut être prêt. On continuera sa vie, deux dans un champ, deux au moulin, et en passant, Luc 17, 34, en ajoute deux dans un lit, ce qui est une note intéressante, et qui aurait dû indiquer à certains des peuples anciens que la terre était ronde, parce que si vous avez le jour dans une partie du monde, et la nuit dans une autre, vous devez avoir une planète sphérique. Mais le monde va suivre sa routine, et le jugement va arriver, puis la porte sera fermée pour toujours, tout comme dans Matthieu 25, 10, dans la parabole des vierges. Il est dit que celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Quand ce moment arrivera, une séparation sera faite. Et le Seigneur sait comment faire cette séparation. Il le sait. Il sait qui laisser et qui emporter. Dans Malachie, vous savez, quand Dieu prononçait un jugement, encore un jugement après l'autre, il est dit. Alors ceux qui craignent l'Éternel, qui étaient justes, ceux qui aiment l'Éternel, croyaient en lui, avaient foi en lui, se parlèrent l'un à l'autre, et vous savez ce qu'ils se sont dit. Oh là là, nous pourrions bien être emportés avec tout cela. Et puis la parole de Dieu leur dit, « Mais non, ils seront à moi, mon trésor particulier, au jour où je le ferai. » Version Darby. C'est dire que le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, n'est-ce pas? Il les connaît. 2 Pierre 2, verset 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils y soient gardés en vue du jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. En d'autres termes, si Dieu savait qui étaient des anges pécheurs et les a punis, et qu'il a sauvé les bons, Dieu a aussi su qui étaient les hommes pécheurs, les a détruits, et il a sauvé Noé avec les justes. Par ailleurs, il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, pour les donner en exemple à ceux qui par la suite vivraient dans l'impiété. Il a délivré Lot le juste. En d'autres termes, si Dieu a su comment sauver Lot de Sodome et Gomorre, et Noé du déluge, et les saints anges de la dévastation du ciel. Ainsi donc, nous dit le verset 9, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Donc, quand le jugement viendra, le Seigneur saura comment faire le tri, puis garder les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. 2 Pierre 2, 9. Ainsi, il sait comment les séparer. Mais le mot ici est, verset 42, restez vigilants. C'est un impératif présent. Soyez continuellement vigilants. Chaque génération, chaque personne, soyez vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. C'est un appel à une vigilance constante, être constamment en alerte. Il viendra,
et ceux qui reconnaîtront qu'il arrive seront alertés devant cette venue, conscients spirituellement. Écoutez, ceci n'est pas de la fiction, ce sont des faits. Il en sera ainsi, comme les prophètes ont dit que les choses se dérouleraient pour sa première venue, et il a accompli chaque prophétie. Ainsi fera-t-il à sa seconde venue? Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra. Et s'il n'est pas votre Seigneur maintenant, il sera alors votre Seigneur, et sa Seigneurie se manifestera dans le droit qu'il aura de vous envoyer dans l'éternité, dans l'enfer, dans le châtiment. Il est Seigneur, et à ce moment-là, tout genou fléchira, certains en adoration, d'autres dans la terreur, mais tout genou fléchira. Inclinons-nous pour prier. En terminant ce matin, vous, moi, chacun de nous, pourrions vivre dans cette génération qui verra l'enlèvement de l'Église, l'holocauste de la tribulation, les signes du Fils de l'homme et la naissance du royaume. Ce pourrait être dans cette génération. Êtes-vous prêt? Êtes-vous vigilant? Lisez-vous les signes des temps? Êtes-vous en règle avec le Seigneur Jésus-Christ? Cette ère tout entière, je crois, est introduite par le fait que l'Église est retirée. Et nous serons gardés de cette heure qui vient éprouver le monde entier. Et je vous invite à venir à Jésus-Christ et à être gardé de cette heure avec nous. Et tandis que le monde subira les terreurs de la tribulation, nous nous réjouirons dans la présence du Sauveur au ciel, vivant dans la demeure qu'il a préparée pour nous. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez le connaître par un simple acte de foi, en invitant dans votre vie celui qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité pour vous. Confessez votre péché, recevez-le comme votre Seigneur et Sauveur.
Quant à vous qui êtes chrétien, puis-je parler encore une fois à mon propre cœur? Tout ceci est un rappel que nous devons investir dans ce qui est éternel. Tout ce qui nous entoure va partir en fumée. Tout cela va être détruit, et seul ce que nous avons investi dans l'éternité survivra, subsistera. Et je demande aussi à Dieu de renouveler mon engagement à faire des investissements éternels avec tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, possessions, ressources, capacités, temps, tout.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.